Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invité Patrick Martellini, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et vice-président de Provence-Alpes Agglomération, délégué aux finances. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité. Alors, un mot évidemment incontournable, ça fait bientôt 10 ans qu'on en parle. Le projet de centre d'enfouissement technique, le CET des Parines à Château-Arnoux-Saint-Auban, qui vient d'être, pour ainsi dire, enterré par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Bernard Guérin, c'était fin février. En rejetant l'autorisation d'exploitation du projet, Bernard Guérin a apporté un coup assez puissant d'arrêt au projet au terme du sixième arrêté de prorogation d'instruction. Alors un sérieux coup d'arrêt au projet que vous combattez, je le disais, depuis 10 ans, mais pas une fin définitive. À quel moment les Parines seront à conjuguer au passé, Patrick Martellini ?
D'abord, merci de me recevoir et puis surtout d'aborder cette question sur l'installation de stockage de déchets non dangereux des Parines. Hein, passé de CET à l'ISDND. Effectivement, le préfet a pris un arrêté sérieux puisqu'il n'a pas donné l'autorisation d'exploiter le 4 avril dernier et reste en suspens la déclaration d'utilité publique qui court logiquement jusqu'au mois de décembre et qui, si on a une action en justice, pourrait être abrogée par le préfet. Alors je dis pourrait être abrogée par le préfet. Parce que voyez-vous, j'ai un scoop, quand je viens chez vous, il y a toujours une information intéressante. Mais le préfet a donc abrogé la déclaration d'utilité publique, ce qui veut dire qu'on va gagner un petit peu de temps par rapport à ce qui était prévu. Et bien entendu, on ne communique pas particulièrement sur cette abrogation parce qu'il y a des délais de recours que prévoit l'arrêté. Et il faut respecter les éventuels recours.
Délai de recours qui serait porté par qui ? Le CIDEVOM, le
qui
département ?
Qui pourrait être porté par le CIDEVOM, qui pourrait être porté par le département, qui pourrait être porté par des usagers. Voilà. Alors, bon.
Objectivement, on imagine mal des usagers le demander ?
Je ne pense pas. D'autant que, quand même, je crois que ce qui est important de rappeler dans cette affaire-là, hein, au-delà du combat qu'on a mené, il y a un travail qui a été fait. Pour dire, bon, c'est bien de s'opposer à un projet comme celui-là, mais l'idée, c'est pas de prendre ce centre et de le déplacer vers une commune voisine ou vers un territoire voisin. L'idée, c'est de mettre en place une vraie stratégie de développement, de gestion des déchets.
J'aimerais qu'on y revienne dans un instant, oui. Patrick Martellini, oui. Mais j'aimerais aller au bout quand même des questions qui peuvent se poser autour de ce délai de recours. On disait, ça peut être des particuliers, ça peut être le département, ça peut être le CIDEVOM également. J'imagine que vous vous êtes entretenu avec René Massette, qui est loin d'être étranger à ce dossier, qui est actuellement le président du département. Que vous dit-il ? Est-ce qu'il est clair sur ses intentions ? Sachant que sur Alpe 1, il a toujours déclaré qu'il était pour les Parines, qu'il ne voulait pas être le président qui laisserait derrière lui un problème de gestion des déchets sur le département. Est-ce qu'il laisse planer un doute sur l'idée qu'il pourrait faire un recours ?
Écoutez, je ne me suis pas entretenu dans le détail avec René Massette. Je pense qu'il l'a vu, il est aujourd'hui président du département et j'ai salué sa présidence, j'ai eu l'occasion de le recevoir et ça m'a fait un grand plaisir à l'occasion des vœux de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Et à cette occasion, je lui ai dit que j'étais à sa disposition pour évoquer cette question. Je pense que René Massette a bien d'autres choses à faire que de travailler sur cette gestion, d'autant que c'est quand même le CIDEVOM qui a en charge la gestion. Le traitement, le ramassage des déchets, et c'est par le CIDEVOM que chacun peut s'exprimer.
Et la bonne nouvelle, c'est que le nouveau président du CIDEVOM est contre les Parines.
Le président du CIDEVOM, effectivement, à titre personnel, ne s'en cache pas, il est contre, mais le président du CIDEVOM tient compte aussi de sa majorité, tient compte des équilibres de force qu'il y a à l'intérieur du CIDEVOM, et le président du CIDEVOM, qui est le maire d'Aimé, chacun le sait, qui est un des vice-présidents délégués à la gestion des déchets de Provence-Alpes Agglomération, travaille justement à un projet qui vise à mettre en place sur la communauté d'agglomération et plus largement sur toutes les communautés adhérentes au CIDEVOM, une stratégie de développement, de gestion des déchets.
Je crois vous comprendre, Patrick Martellini, que vous n'êtes pas plus dans une attaque frontale et à des déclarations comme vous pouvez l'y être il y a un certain temps, en disant « je me coucherai devant les bulldozers s'il le faut pour que les paris n'aient pas lieu ». Finalement, votre approche aujourd'hui, face notamment à René Massette, c'est d'être plus dans une... en montrant patte blanche, en disant « voilà, on est arrivé à terme à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire que les paris ne se fassent pas, mais on va vous prouver qu'on est capable aussi de proposer des projets alternatifs qui n'iront pas à l'encontre d'un projet de territoire qui permettent de gérer des déchets et qui donc ne risquent pas de voir le poids du prix de la gestion des déchets exploser. »
Tout à fait. Je pense que il y a eu des joutes, il y a eu des combats, il y a eu des discussions, vous vous souvenez, je suis venu à plusieurs reprises ici, dans le dur, et je pense que avec mon équipe, on a fait un vrai travail qui a toujours été un travail dans le respect des personnes et des institutions, dans le respect des positions, mais en souhaitant que nos positions soient respectées. Aujourd'hui, ce projet, on s'en écarte de plus en plus, et on est à, je pense, quelques semaines de l'aboutissement, et j'espère que ça se passera bien sur la fin. On s'aperçoit d'ailleurs que c'est un projet qui, c'est un projet comme celui-là ne peut pas se faire sans les élus locaux. C'est pas possible. À partir du moment où nous sommes arrivés en 2008 et avec un discours qui était assez ferme là-dessus, c'est vrai que on aurait pu se mettre autour de la table. Mais je peux comprendre aussi que ceux qui étaient pour ce projet et puis le président Bianco aussi en son temps.
Oui, parce que c'est lui l'initiateur du projet.
Veuille le voir aboutir. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette stratégie. Qui plus est, il y a eu un certain nombre de textes, de lois qui font qu'il y a des objectifs, que ces objectifs, il faut qu'on arrive à les atteindre dans le temps.
Et là, on parle de la promotion d'un territoire zéro déchet.
On parle de la promotion d'un territoire zéro gaspillage, zéro déchet, avec des objectifs bien précis, bien calé. Et vous comprenez bien que moi, je serai aux côtés du président du CIDEVOM, aux côtés de Gérard Paul, vice-président de l'AGLO, pour l'aider, l'encourager avec toute mon équipe, pour qu'on puisse mettre à terme ces projets, et y compris expérimenter sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban des systèmes de traitement différents des déchets.
Vous êtes en train de dire tout de même avec diplomatie qui vous caractérise, Patrick Martellini, qu'il est temps maintenant d'aborder le plan B qui n'a jamais été abordé jusqu'à présent par le CIDEVOM et par le département à travers cette promotion du territoire zéro déchet. Vous vous impliquez en disant « je serai à vos côtés pour le faire, encore faut-il que les acteurs le veuillent ».
Mais je pense qu'ils le veulent. Je pense qu'on n'a pas le choix, on est guidé par la loi. Et puis je rappelle que le territoire du Smirtom, qui était composé de l'ancienne communauté de communes de la Moyenne Durance et de l'ancienne communauté Lure-Durance-Vanson, avait déjà initié une démarche de territoire zéro gaspillage, zéro déchet.
Mais là, vous renvoyez la balle à René Massette en lui disant « c'est à vous de jouer maintenant ».
C'est aussi des VOM. Oui. C'est aussi des VOM de mettre en place sa stratégie.
Qui, rappelons-le, est financé en grande partie par le département. Donc tout ça se tient.
Était financé par le département. Je pense que le département va accompagner la démarche. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le plan des déchets, c'est le plan régional des déchets. C'est donc la région qui organise la gestion des déchets. Le département ne peut qu'accompagner, et j'espère qu'ils le feront, ponctuellement le CIDEVOM dans ses investissements. Mais le département, ce n'est plus de sa compétence.
Donc on repart sur une feuille blanche, là ?
Non, parce que justement, il y a eu des expérimentations et il y a un énorme travail qui a été fait. Et je vais prendre comme exemple. Sur Provence-Alpes Agglomération, nous avons fait un travail énorme durant l'année 2017 pour arriver, d'une part, à harmoniser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, parce qu'il y avait encore un territoire qui était à la redevance. Donc, il a fallu qu'on harmonise et qu'on harmonise à l'ensemble du territoire cette taxe. Et on vient de voter, là, au dernier conseil d'agglomération, le taux. Le taux qui a été calculé en tenant compte du projet que l'on veut mettre en place, parce que lisser un taux sur l'ensemble du territoire avec des variations, avec peut-être certains qui vont avoir une légère baisse, d'autres qui risquent d'avoir une augmentation, si on va dans la population et qu'on ne présente pas un projet cohérent, eh bien, forcément, la population verra d'un assez mauvais œil qu'on augmente.
Projet cohérent, revalorisation de 60% des déchets d'ici 2025 sur l'agglo, diminution du tonnage enfoui 30% en 2020, 50% à l'horizon 2030. Donc, votre centre d'expérimentation aux yeux du département et même de la région se passera du côté de l'agglomération dinoise.
Je pense qu'il se passera sur l'ensemble du territoire du Sidévom. Ouais. Mais nous nous donnons, nous, les moyens, à l'intérieur de Provence-Alpes Agglomération, de mettre en place cette politique. Vous voyez, le discours, il a changé, hein, sachant que quand même, moi, je suis très vigilant sur la suite de ce projet, c'est-à-dire que je veux voir aboutir la procédure jusqu'au bout.
Et qu'est-ce qui vous rend si vigilant ? Parce que, à la fois, en début de discussion, Patrick Martellini, vous aviez l'air de dire que finalement, tout rentrait dans l'ordre. Une nouvelle fois, vous nous annonciez que le préfet allait dans ce sens, c'est-à-dire contre l'éparine.
C'est
et à la fois,
réflexe.
Vous nous dites...
C'est un réflexe. Bon. Vous savez, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je me bats et que je me bats pas tout seul. Hein, j'ai mon équipe qui poussait chaque fois. Ça fait 10 ans que je passe mes journées, pour ne pas dire des nuits, à travailler sur ce projet. Ça fait 10 ans que je travaille, que j'étudie, que je suis accompagné par des cabinets d'avocats, par des collaborateurs, pour essayer de chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, être là, être vigilant. J'ai tellement vu le balancier aller d'un côté, de l'autre, revenir. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui a fait la différence ? Ce qui a fait la différence, c'est qu'on a un préfet qui a étudié le dossier, qui s'en est imprégné, qui le connaît, le dossier. La première fois que j'ai rencontré le préfet Guérin, on était en phase. Il connaissait le dossier autant que moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on va pouvoir travailler ensemble. Sous-entendu, peut-être que lui aura des arguments que... la préfète qui était avant lui n'a jamais été convaincante à me donner pour me dire il faut ce projet. Bon, il se trouve que le préfet a compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce projet. Donc je suis vigilant, pour répondre à votre question. Je suis vigilant tant que c'est pas déterminé. Mais bon, là, je veux volontairement être optimiste. Je me dis, ça vaut le coup d'attendre encore un petit peu. Ce projet, certes, il n'y a pas l'autorisation d'exploiter. Certes, la DBUP est d'abroger, mais il y a encore des recours. Lorsque les recours seront terminés.
Jusqu'à la fin de l'année,
Non, là, c'est la date butoir de fin de la DUP, mais le préfet l'a abrogé. Donc, ça veut dire que c'est une histoire de 2 à 4 mois, suivant la nature des recours.
Imaginons pire, le Sidévom attaque.
Je ne pense pas que ça vienne du Sidévom, honnêtement.
Qui pourrait, alors
peut-être le département, peut-être des usagers. Mais je pense qu'aujourd'hui... on a fait un travail qui montre que à chacun qu'on n'est plus dans une stratégie de combat, mais qu'on est dans une stratégie de construire ensemble.
Un mot, il sera peut-être politique et vous allez peut-être du coup utiliser un joker, quoi que sait-on jamais. On se souvient que La République En Marche avait indirectement attaqué en disant tout ça a coûté quand même 1,5 million d'euros au département, au Sidévom, à travers les différentes études. Il serait bien que le département rende des comptes aussi bien aux habitants qu'aux élus. En un mot, La République En Marche a eu raison de demander ça à René Massette ?
Je n'utiliserai pas de joker, mais je dirais à chacun de faire sa politique. Je pense qu'il y a eu une réaction à ce moment-là de La République En Marche, elle lui appartient. Moi, je pense que, personnellement, que peut-être il n'était pas nécessaire tout de suite d'avoir une réaction comme celle-ci, d'autant que c'est un dossier très complexe, très compliqué. Qu'il fallait peut-être se donner le temps de la réflexion, mais il appartient à la République En Marche d'apprécier le sens de sa démarche.
Patrick Martellini qui fait dans la diplomatie et politique ce soir, vous l'avez compris, sur le sujet des parines. On va marquer une courte pause, on va se retrouver dans un instant, se tourner encore un peu plus du côté de Provence-Alpes Agglomération, ce sera dans la dernière partie d'Au bout de l'actu. À tout de suite.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invité Patrick Martellini, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et premier vice-président de Provence-Alpes Agglomération, délégué aux finances. On va en parler justement, un budget global qui s'équilibre à quasiment 46 millions d'euros pour l'agglomération, le fonctionnement qui représente 36 millions d'euros, un investissement, et on en parlera dans un instant, de 9,5 millions d'euros. Un mot quand même sur l'opposition au sein de l'agglomération qui dénonce les coûts des indemnités des 15 vice-présidents qui annoncent un chiffre 3 400 euros par an. Des indemnités selon l'opposition parfois injustifiées et qui, si elles étaient limitées, permettraient de faire des économies en faveur de l'investissement local. Vous répondez quoi à ces propositions ?
Alors, d'une manière générale, je dirais que sont toujours opposés aux indemnités ceux qui n'en ont pas. Hein, donc ça, je pense que c'est important de le souligner parce que c'est des réflexes qu'il peut y avoir. Ce débat, on l'a eu. On l'a eu lorsque la communauté d'agglomération a été constituée. Ceux que ne comprennent pas toujours les opposants, et puis peut-être d'autres hein, avec qui il faut faire de la pédagogie, c'est que quand on organise un projet comme celui de Provence-Alpes Agglomération, il faut trouver des équilibres, il faut trouver des équilibres politiques, surtout lorsque cette organisation se fait en cours de mandat, où il y a des personnes qui avaient des responsabilités, qui étaient en responsabilité dans les collectivités où, d'où elles venaient. Et il a fallu effectivement que nous trouvions les bons équilibres pour mener ce projet. Les bons équilibres se sont effectués autour de 15 vice-présidents, 3 conseillers délégués et une présidente. Et à partir de là, eh bien, il y a eu des indemnités qui ont été votées, correspondant tout à fait à ce que la loi nous autorise à faire. Alors, dire que ces indemnités devraient permettre plus d'investissement si elles n'étaient pas versées, bon, écoutez, moi, d'une part, j'en suis pas convaincu, et puis d'autre part, à partir du moment où les gens en responsabilité, en délégation, font leur travail, il ne m'appartient pas de le juger, c'est à la présidente de le faire, ben, écoutez, les indemnités, elles servent à quelque chose.
Mmh. Voilà. On fait une moyenne, ça fait 2 200 € par vice-président par mois, si on lisse, évidemment.
Si on lisse, mais si on lisse, le lissage ne fonctionne pas comme ça.
Bien sûr.
Il y a d'abord des conseillers délégués qui n'ont pas les mêmes montants, des vice-présidents qui n'ont pas les mêmes montants, et une présidence qui a un montant qui correspond aux énormes responsabilités qu'elle a.
Vous pourriez être moins 15 vice-présidents, c'est beaucoup. À titre de comparaison, la DLVA, Manosque, ils sont 15 aussi.
Ils sont 15 aussi. Je pense que c'est la structure qu'il fallait pour pouvoir avoir un exécutif de qualité et un exécutif qui soit en capacité de faire des propositions à l'Assemblée plénière en connaissance de cause et en toute responsabilité.
Bon, alors parlons de tout cela. L'une des bonnes nouvelles tout de même pour les contribuables, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité. Sachant que les agglomérations n'ont pas de fiscalité propre, hein, elles s'appuient sur les impôts des communes pour faire court, pour faire simple. Ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Ce qui veut dire quand même que l'agglomération a des comptes aujourd'hui qui lui permettent d'investir avec ses fonds propres. Des investissements qui iront vers quoi, principalement ?
Alors, si vous le permettez, avant toute chose, et avec, en essayant d'être rapide. Quand on évoque...
Et un peu didactique, si ça ne vous ennuie pas, parce que souvent, non, ça peut être un peu technique.
Tout à fait, mais je vais essayer de faire simple et avec un peu de pédagogie. Ne jamais oublier d'où on vient. Provence-Alpes Agglomération, c'est le produit de la fusion de 5 communautés d'agglomération, qui fait qu'en 2017, nous avons voté un budget qui est l'agrégation des 5 communautés fusionnées avec leurs compétences. Le travail que nous avons fait en 2017 a été un travail de mise à plat du fonctionnement, un travail sur les compétences, avec la fin des mises à disposition pour les personnes, avec un diagnostic permanent, le budget de 2017 en témoigne, sur la réalité de notre fusion. La réalité de notre fusion en 2017, c'était quoi ? Ça se résume en 2 phrases. Une communauté d'agglomération qui avait un faible endettement et 2, une communauté d'agglomération qui devait aller chercher sa capacité d'autofinancement qui était faible à l'époque. Et bien entendu, en 2017, il y a eu la suite des projets qui avaient été engagés par les autres communautés avant qu'elles ne fusionnent.
Diagnostic qui a révélé aussi que les économies d'échelle y étaient. Je vous pose la question parce que c'est souvent ce qu'on se pose comme question. Je reviens sur la DLVA puisque ça a été la première qui a été créée dans les Alpes-de-Haute-Provence en termes de communauté d'agglomération. On s'est rendu compte que les économies d'échelle n'y étaient pas forcément, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que là, du côté de Provence-Alpes-Agglomération, on y est ?
Écoutez, quand on regarde le budget qui a été voté en 2017 et quand on regarde le réalisé issus du compte de gestion et du compte administratif, on s'aperçoit que la réalité, que le réalisé est assez proche de ce qui avait été prévu. Donc on a eu une feuille de route qui a été donnée et qui a été de ne pas avoir, notamment sur le fonctionnement, une augmentation qui viendrait à pénaliser l'investissement pour le coup, puisque faible capacité d'autofinancement, pas d'investissement. Et c'est à cette époque-là d'ailleurs que nous avons décidé, après avoir réfléchi au lissage des taxes dans le temps, de dire on ne touchera pas à la fiscalité jusqu'à la fin du mandat. C'est quand même une décision politique courageuse, parce que qu'est-ce qu'on reproche souvent aux élus locaux ? On leur reproche de dire « Ah ben les élus locaux, c'est facile, le levier, il est simple, il suffit d'augmenter la fiscalité et puis le train de vie, il suit. » Non, nous, on a verrouillé le train de vie et on n'a pas touché à la fiscalité. Ça, c'est la première chose. En 2018, le budget est parti d'un postulat, on ne touche pas à la fiscalité, on fait un état des lieux. L'état des lieux, il se vérifie en quelques phrases aussi. Une capacité d'autofinancement qui n'a pas tendance à s'améliorer dans le temps. Donc, ça veut dire qu'on va travailler sur les charges de fonctionnement et on va travailler au verrouillage de certains postes, à des économies de flux, à une gestion de la masse salariale qui soit responsable. Ce que nous faisons, hein, parce que une agglomération, vous l'imaginez bien, de 46 communes et de 47 000 habitants, où on ne recrute pas de personnel, où on fait avec les équipes en place, ben ça suppose quand même des équilibres pas faciles, parce que des personnes qui étaient habituées à gérer des petites communes qui se trouvent dans des territoires de 47 000 habitants, c'est quand même pas une petite chose. Oui. Et puis sur l'investissement, on a construit un programme d'investissement en tenant compte dans un premier temps ben de ce qui est récurrent, qu'on retrouve chaque année, en reprenant des projets effectivement qui étaient dans les circuits et qui correspondent à nos compétences par rapport aux orientations économie et touristique qu'on voulait donner, et puis la mise en avant de notre plan déchets dont nous avons parlé il y a quelques instants.
Charge de fonctionnement, masse salariale, j'en entends quelques-uns dont les oreilles sifflent et se disent « Oula, ça c'est pas bon pour les postes, il va y avoir des postes qui vont sauter à terme pour faire des économies ». On traduit comme ça ?
Non, du tout. Je pense que, d'abord, il y a un travail qui se fait par mon collègue Gilbert Renaudot, qui est le vice-président délégué au RH. Il travaille dans le cadre d'un dialogue social avec les organisations syndicales, il y a des échanges, mais il l'est vrai. Bon, là, il y a le directeur des services techniques qui va partir, il sera remplacé, mais il l'est vrai après que chaque fois que se pose une question, la présidente nous demande d'être vigilants et d'être très attentifs à ne pas augmenter la masse salariale. Mais ne pas augmenter la masse salariale, ou l'augmenter, elle va augmenter hein, de 3-80%, cette augmentation, elle est liée aux augmentations normales de salaire et à des renouvellements de personnes. Donc, je pense que
mais là, on n'est pas dans une contradiction. On n'est pas dans une contradiction, Patrick Martini, parce que je vous posais justement la question de savoir des économies d'échelle et vous nous dites malgré tout, quand même, on va être obligé. Alors, il y a l'indice des salaires qui fait
bien
pour,
sûr,
qui,
bien
pour
sûr.
Quelque chose.
On est contraint.
Mais la masse salariale qui va aussi grandir. C'est ce que vous nous dites. L'économie d'échelle, elle est où là ?
Très légèrement, parce qu'elle grandit par le fait d'un renouvellement de personnel et par la fin de tout ce qui était jusqu'alors des mises à disposition. Parce qu'il y avait des mises à disposition de personnel et de plus en plus, Provence-Alpes agglomération a cette autonomie par rapport aux autres communes, ou par exemple la commune de Château-Arnoux, hein, où il y avait Château-Arnoux-Saint-Auban, où il y avait beaucoup de mises à disposition, eh bien on a quasiment terminé ces mises à disposition. Il y a des secteurs où ça va demeurer, mais il y a des secteurs où il n'existe plus.
En termes de projets, vous l'avez annoncé sur Alpe 1 à l'issue de ce conseil, vous le disiez, il y a des grands projets, le spa thermal de Digne-les-Bains qui sera financé grâce à une redevance que verseront les thermes à l'agglomération. Il y a aussi l'abattoir de Digne-les-Bains qui représente un investissement de 126 000 euros et l'abattoir de Selles-les-Alpes pour 173 000 euros. C'est ça les projets phares de l'agglomération pour les années à venir ?
Non, je pense qu'il faut bien intégrer une chose et il faut bien que à la fois nos concitoyens, mais également les élus hein, de Provence-Alpes agglomération intègrent. Là, on est dans une phase quand même de création de la communauté de communes Provence-Alpes agglomération. C'est-à-dire que cette communauté, elle bouge encore dans son fonctionnement, elle est à la recherche de ses fondations, elle est à la recherche de cette organisation. Néanmoins,
c'est long.
On essaie.
Pardon, Patrick
Martini,
c'est long. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était il y a 4-5 mois. Vous aviez à peu près le même discours.
Non, je ne pense pas.
Oui.
Je ne pense pas qu'on ait abordé ces questions.
Un petit peu quand même, sur les projets à venir. Vous nous disiez, on est en préparation, il faut du temps, c'est un grand chamboulement.
Regardez, le spa thermal qui va sortir, c'est 5,5 millions d'euros. Le projet écotouristique sur Château-Arnoux, c'est pas loin d'un million d'euros. Avec le financement d'une passerelle qui va relier les deux berges à la fois de Volonne et de Château-Arnoux-Saint-Auban, mais qui appelle quand même un investissement privé, hein, parce que c'est dans le cas d'un partenariat public-privé, on va mettre 900 et quelques mille euros et le privé va mettre plus de 10 millions d'euros. Donc moi, je dis que quand même, ça vaut le coup. On travaille intelligemment et on travaille avec les deniers de nos contribuables et on les valorise. Le spa thermal. Le spa thermal va donner un second souffle au terme parce qu'il va permettre d'accueillir une clientèle qui jusqu'alors ne fréquentait pas les thermes. C'est 5,5 millions d'euros qui vont se financer par de l'emprunt, qui vont se financer par une redevance et qui vont se financer aussi par de l'argent qui va venir de Provence-Alpes agglomération, par de l'autofinancement. Là, on a des retours sur investissement. Mmh. On a une image, on a un projet de territoire qui est en train de s'organiser. Après,
et Provence-Alpes agglomération en mission de sauvetage pour Digne, si je comprends bien aussi.
Oh, pas forcément, mais moi je dis simplement que Provence-Alpes agglomération a besoin d'une commune comme DLVA Manosque, d'une commune centre, c'est le cas de Digne-les-Bains, forte. Donc je pense qu'il est important que le budget et l'organisation des investissements se fassent aussi pour permettre à la ville qui est la plus en avant d'avoir des projets. Mais c'est pas la seule. Le projet écotouristique, c'est sur la moyenne endurance. Et Château-Arnoux-Saint-Auban ne sera pas en reste. Quand on travaille sur les abattoirs Seine-les-Alpes, le financement de l'abattoir, les abattoirs, c'est quand même des services de proximité indispensables pour des utilisateurs. Et c'est aussi ça. Provence-Alpes agglomération, c'est les communes rurales dont il faut tenir compte.
On arrive malheureusement au terme de notre rencontre, Patrick Martellini. Un mot tout de même. La gare de la Brianne menacée. Sur la même ligne, on a aussi Saint-Auban. Renaud Muselier a assuré de son côté qu'il n'y aura aucune gare de fermée. Est-ce que vous y croyez?
Oui, moi j'ai tendance à croire. Vous savez, les politiques, on dit de nous qu'on tient des discours. Ce sont des discours de politique. Je pense que si Renaud Muselier fait ce genre de discours, je ne pense pas qu'il le raconte comme ça. Moi, je pense que la gare, pour parler de celle qui est sur ma commune, de Saint-Auban, n'est pas menacée pour l'instant. Il y a du trafic, elle sert. Il y a des jeunes qui vont régulièrement à Aix-en-Provence ou à Marseille pour faire leurs études et qui utilisent ce moyen de transport. Bon, pour l'instant, je veux qu'on soit vigilant.
La substitution des bus a existé, hein, on l'a vu dans les Hautes-Alpes.
Bien sûr, mais je veux être vigilant. Ouais. J'ai autour de moi, vous savez, Château-Arnoux-Saint-Auban, c'est une terre de syndicats par rapport à l'usine. Et il y a des syndicats, il y a des conseillers municipaux qui appartiennent à des centrales syndicales qui nous font remonter des informations. Pour l'instant, ils ne m'ont pas alerté. Et je peux vous assurer que chaque fois qu'il y a eu menace, ils sont les premiers à me le signaler.
Bon, les lanceurs d'alerte, qu'on se le dise, sont à Château-Arnoux-Saint-Auban. Un mot, vous êtes proche de Christophe Castaner, pas totalement insensible à la politique d'En Marche. Ça, c'était à l'époque de la présidentielle, des élections présidentielles. Aujourd'hui, vraiment, en un mot, je vous demande un exercice de synthèse pour conclure ce rendez-vous. Vous êtes à l'aise?
Je suis à l'aise. Ils mènent la politique qu'ils avaient décidé de mettre en place. Ils avancent sur un train de réforme qu'il ne fait pas forcément plaisir, mais je pense que il y a des affrontements qui vont, je l'espère, aboutir par des discussions, des négociations. Je pense que Christophe Castaner, bien sûr, c'est un ami et puis c'est quelqu'un que je soutiendrai tout le temps. Vous savez, c'est précieux d'avoir un ministre dans un département, je peux vous assurer. Et puis le président Macron, je crois qu'il est fidèle à ce qu'il l'avait dit. Alors après, sa politique, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je ne suis pas dans La République en marche, mais je suis fan de Macron.
Et vous ne tombez pas de l'armoire face aux décisions, aux annonces qui sont faites par Emmanuel Macron?
Pour l'instant, non.
Aucune surprise. Patrick Martellini était notre invité ce soir, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban et vice-président, premier vice-président de Provence-Alpes agglomération, délégué aux finances. Merci d'avoir été notre invité.
Merci de m'avoir invité.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Il y a des chances, manifestement, d'ici quelques semaines, pour conclure, peut-être, ce projet d'Eparine. 19h sur Alpe 1, on avance dans un instant le récap de l'info. À tout de suite.